France Musique, c'est l'été.
Il est 8h30 et il est l'heure de recevoir notre invité du jour. Oh, je le présente pas, vous le connaissez par cœur, c'est Christian Merlin, bonjour.
Bonjour Clément.
Journaliste Christian Merlin au Figaro et sur France Musique. Alors on vous a fait venir parce que vous êtes un peu notre spécialiste de l'orchestre, puisque vous présentez depuis le début de la saison, mais c'était déjà un livre auparavant, au cœur de l'orchestre sur France Musique tous les dimanches à 9h. Une émission qui est rediffusée d'ailleurs tout au long de l'été, partiellement, et puis que vous continuerez l'année prochaine.
Ah oui.
On en est très heureux, Christian.
Et moi donc.
Donc on s'est dit, on a un anniversaire à fêter. Les commémorations des 30 ans de la mort de Herbert von Karajan. On s'est dit, il faut faire venir notre spécialiste de l'orchestre. Et vous, voici alors Karajan, mort le 16 juillet 89 d'un infarctus à 81 ans. Est-ce que vous vous souvenez du retentissement qu'avait eu l'annonce de sa disparition à l'époque ?
Très bien, je m'en souviens d'autant mieux que j'étais en Allemagne à ce moment-là. C'était l'été et ça a été un choc pour la planète classique parce que on n'imagine pas aujourd'hui la place qu'avait Karajan, qui était une place de quasi-monopole en fait. Moi, je suis un peu de la deuxième génération des karajanistes, mais j'avais des parents qui étaient mélomanes, qui avaient des disques à la maison. Et en fait, quand je dis qu'ils avaient des disques, c'était des disques de Karajan. Et la question ne se posait même pas, c'est-à-dire quand ils allaient chez le disquaire, parce qu'il y avait encore des disquaires, Clément, à l'époque. Et si vous faites une réflexion sur mon âge, voilà, c'est vrai. Eh bien, on prenait la version Karajan. Ouais. Et quel que soit le répertoire, ça n'est que plus tard que moi j'ai commencé à m'intéresser au guide du disque, aux comparaisons d'interprétation, et que j'ai découvert qu'il y avait quand même des Giulini, des Mravinsky, des Bernstein, etc., qui étaient peut-être tout aussi intéressants.
En fait, c'était pas mille et un opéra, c'était mille et un Karajan.
C'est à peu près ça. Jusque son Karajan. Je vais vous faire trembler et frémir jusque dans les quatre saisons de Vivaldi. Et là, je me souviens, j'étais petit. Là, quand même, mes parents ont commencé à être un peu ébranlés parce qu'ils connaissaient aussi la version d'Imusici. Et quand ils ont entendu Karajan, tout karajanophile qu'ils étaient, ils se sont dit, oulala, dans Vivaldi, c'est quand même très lourd, non? Donc, vous voyez, les esprits commencent comme ça à changer.
Bah écoutez, moi, je peux vous dire qu'on a écouté tout à l'heure une symphonie de Haydn.
Ouais.
Et très franchement, on s'est dit qu'il pouvait tout à fait rivaliser avec un jeune orchestre baroque qui joue sur cordes en boyau.
Dans le répertoire classique, il y avait un dynamisme et une vitalité.
Mais oui, absolument. C'était un petit peu une figure de demi-dieu aussi, hein,
oui.
Karajan, en plus d'être un grand chef.
D'ailleurs, visiblement dans son esprit de dieu complet, il y a une histoire célèbre. En gros, c'est Carl Böhm, Scholti, Bernstein et Karajan qui sont attablés et qui devisent pour savoir qui est le plus grand chef d'orchestre. Et chacun a des arguments. On dit, moi, Scholti, je suis le plus grand chef d'orchestre parce que je dirige les plus grands orchestres. Carl Böhm dit, moi, j'ai connu personnellement Richard Strauss. Et là, Bernstein dit, Dieu m'a dit. Et Karajan dit, moi, mais je n'ai rien dit. Donc voilà à peu près qui vous fixe ce qu'était son statut. Mais ça tient au fait, effectivement, qu'il avait véritablement créé un empire et qu'il y avait cette sorte de domination sur tous les plans et pas seulement musical.
Alors c'est vrai qu'il y a plein de clichés qui entourent, mais qui sont peut-être pas des clichés d'ailleurs, qui sont peut-être des vérités, qui entourent ce personnage de Karajan, un homme tout puissant, un homme caractériel, un peu mégalomane, un peu dur, contrôle fric, comme on dirait aujourd'hui, qui avait besoin de tout contrôler. Il y a des exemples avec les enregistrements. Alors justement, c'est des clichés ou il y a une part de vrai?
Alors comme toujours dans les clichés, il y a une part de vrai, mais il faut vraiment en prendre et en laisser. D'abord, je crois que c'était un homme, comme beaucoup d'artistes, très secret. Et que cette impression, comme ça, de froideur qu'il dégageait, c'était aussi une carapace vis-à-vis du monde extérieur. Et pour rester dans sa bulle et pouvoir se consacrer à son art. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout détesté des orchestres. C'était le patron, ça c'était clair, c'est aussi une époque. Mais le contact avec les musiciens se faisait avec une certaine courtoisie, un respect mutuel. Ça n'était donc pas quelqu'un de caractériel. Il savait ce qu'il voulait. Et il était sans concession là-dessus, mais il n'avait pas de caprice, par exemple. Donc, un souci de contrôle, certainement, mais aussi une grande sensibilité qui ne se voyait pas du premier coup. Je voudrais juste vous citer, parce que peut-être qu'on peut le voir sur Internet, j'en suis à peu près sûr, un film où on le voit diriger, qui me paraît très révélateur, c'est La mort d'Isolde, avec le Philharmonique de Vienne. Et on a l'impression qu'il est complètement envahi par la musique, que c'est presque une extase. Enfin, il a les yeux fermés et une sorte de rictus. Il est très loin. Et à un moment donné, le hautbois met un petit peu de temps à entrer. Il n'entre pas au bon moment. Et là, il y a l'œil qui s'ouvre et d'un geste, il remet le hautbois dans le droit fil. Ça veut dire qu'il était en extase, mais il gardait quand même le contrôle.
Début du scherzo de la 9e symphonie de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette d'Herbert von Karajan. Alors ça, c'était Christian Merlin, un compositeur qu'il adorait plus que tout. Il y avait une puissance, un héroïsme sans doute qui devait lui plaire chez Beethoven.
Absolument, et c'est le compositeur où il a le plus essayé d'atteindre son but d'origine, qui était de faire une synthèse entre ses deux idoles, qui étaient Furtwängler et Toscanini. Et ça, c'est très rare, parce que pendant longtemps, on a été, en tant que mélomane, obligé de se définir par rapport à l'un ou à l'autre. Si on était Furtwänglerien, on ne pouvait pas être toscaninien. Donc soit c'était le grand son romantique avec un tempo très fluctuant et très très organique, ou alors le côté très tenu, très métronomique et très strict et net de Toscanini. Et lui estimait qu'on pouvait obtenir les deux à la fois. Il y est arrivé. Et ce qui est très intéressant avec Beethoven, c'est que ça permet d'évoquer son rapport au disque. Il est l'un de ceux qui ont le plus tôt et le mieux compris ce que représentait le disque, et notamment le disque longue durée. Ça, c'est tout début des années 50, le LP, le 33 tours, le vinyle, comme on dit maintenant. Ouais. Et donc, on pouvait enregistrer des phases beaucoup plus longues et en faire littéralement une économie, une industrie. Et Beethoven, il y est revenu, figurez-vous, 4 fois, 4 intégrales, tout au long de sa vie.
Ça jalonne.
C'est
inédit, non ?
C'est inédit pour l'époque. On commençait tout juste à faire des intégrales, mais on en faisait une dans sa carrière de chef d'orchestre. Oui. Mais lui, comme il estimait d'une part que son interprétation évoluait et que d'autre part la technique évoluait, sa toute dernière par exemple étant, à l'époque on disait DDD, c'est-à-dire tout digital, tout numérique, alors qu'avant il avait connu l'analogique,
le AAD,
exactement, il a connu l'arrivée de la stéréo, et à chaque fois il fallait enregistrer pour être à la page.
En tout cas, il y a vraiment un côté bâtisseur chez lui, bâtisseur d'empire. Vous l'avez dit tout à l'heure, Christian Merlin. Je voudrais justement à ce propos vous faire écouter un petit extrait de Radioscopie, l'émission de Jacques Chancel en 1977, qui avait eu la chance de recevoir Karajan en personne.
Quand on m'a nommé, j'ai dit j'accepte avec joie. Et je voulais rien d'autre, mais j'ai dit j'accepte seulement si c'est pour la vie. Je ne voulais pas bâtir une chose que peut-être pour une raison ou l'autre, un jour vous n'avez plus. Je savais que je base ma vie artistique sur ça et je voulais l'avoir jusqu'à ma mort.
Voilà, c'est la voix de Karajan.
Cette voix très nasale,
oui.
pas musicale pour dessous.
Mais non,
lui,
pas du tout.
Lui qui avait une musicalité si, si souple, si belle, un sens du beau son. Sa voix, au contraire, était une voix d'oiseau, de proie ou de canard, un peu.
Oui, il n'a pas une voix très impressionnante,
il n'a pas une voix
d'ogre.
Mais alors, effectivement, quel sens de la construction et pas seulement musical. Là, ce qu'il dit, il enjolive un tout petit peu, hein, parce que Furtwängler meurt en novembre 54. Lui est élu par l'orchestre en décembre.
Donc on parle du Philharmonique de Berlin.
Du Philharmonique de Berlin,
absolument. C'est là où il est nommé et il veut rester à vie.
Tout à fait. Mais il a un peu hâté les choses, hein, parce qu'il a quand même, là aussi, très malin, très politique. Il a convoqué une conférence de presse pour dire qu'il remerciait l'orchestre de l'avoir choisi, alors que c'était pas fait encore. C'est très malin. Et bâtisseur aussi, pas seulement sur le plan musical, sur le plan architectural aussi. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Philharmonie de Berlin n'existait plus, elle avait été détruite, et que pendant des années l'orchestre a joué dans un cinéma, et en 63 sort du sol ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Philharmonie de Berlin, qu'il a commandé à un architecte tout à fait moderne, Hans Scharoun, et c'est la première salle dite en vignoble, et pas en boîte à chaussures, comme l'est aujourd'hui la Philharmonie de Paris, comme on en connaît beaucoup. C'était pionnier, et à Salzbourg, pareil, il considère que le Festspielhaus, c'est le théâtre des festivals à Salzbourg, où il était chef là aussi pratiquement à vie. était trop petit pour faire ce qu'il rêvait de faire, les grands Wagner, les grands Strauss. Qu'à cela ne tienne, on en construit un autre, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de grand Festspielhaus.
Alors Christian Merlin, avant d'être cet immense bâtisseur qu'on connaît avec l'histoire à garder, est-ce qu'on pourrait retracer très rapidement en quelques mots l'enfance, les débuts de Karajan? Comment ce petit garçon qui est né dans une famille de musiciens, à quel moment Karajan devient Karajan?
C'est évidemment, c'est toujours très complexe, mais en tout cas il se met au piano. là un accident l'empêche de continuer à jouer. Son professeur au Mozarteum de Salzbourg, parce qu'il faut rappeler qu'il est non seulement salzbourgeois mais autrichien et non pas allemand, ça jouera aussi peut-être un rôle dans sa vie, lui conseille de se mettre à la direction. Vraiment les débuts sont pas très glorieux parce que en gros son premier concert et la salle et l'orchestre sont achetés par sa famille qui a de l'argent, donc on a payé pour lui organiser son concert. Il voit Toscanini diriger Lucia di Lammermoor et pour lui c'est un choc à vie, et là je dirais que c'est une construction patiente, étape par étape, en commençant tout petit. On connaît l'histoire au théâtre d'Ulm, qui est vraiment la sous-province allemande, avec un orchestre d'une trentaine de musiciens et une fosse de la taille de son salon, et où il faut tout faire, il faut mettre les mains dans le cambouis.
Alors ça c'est un de vos choix. Ben oui, c'est dommage que ça s'arrête. Me susurre Christian Berlin. Enfin, ça dure une heure cette affaire. Donc on n'a pas une heure devant nous. Mais on pourra toujours aller l'écouter en se procurant, si on l'a pas déjà, ce CD qui est le tout premier CD de l'histoire.
Oui, classique, Christian Berlin. En tout cas. Ouais. Et là aussi, il a senti et il a été sensible à cette innovation technologique. Il a misé sur le CD au début dans les années 83 par là. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Disaient ça ne va pas durer et ça va être un feu de paille. Lui y a cru, et ça dit aussi quelque chose, cet enregistrement qui lui tenait très à cœur.
Je vous coupe quand même pour dire ce que c'est. On l'a pas dit. C'était le lever du soleil quasiment au début de la symphonie alpestre de Richard Strauss avec son Philhar de Berlin.
Parfois, dans mon émission, il m'arrive de dire vous aurez reconnu. Il y a des auditeurs qui m'écrivent qui disent non, je l'avais pas reconnu. Donc pardon, oui, bien sûr, la symphonie alpestre qui lui tenait très à cœur, et en particulier pour le rapport au son. Vous l'avez entendu, c'est un bain orchestral. Absolument fascinant. Et cet enregistrement a une histoire particulière. La lumière rouge du micro ne s'est allumée qu'une fois qu'il avait trouvé la bonne disposition orchestrale pour faire passer la conception sonore qu'il avait. Donc ils ont passé des heures, si ce n'est des jours, à redisposer les pupitres pour que ça sonne comme ils le voulaient. Ça aussi, c'était le fanatisme de la perfection Karajan.
En parlant d'organiser les pupitres lui-même, il y avait une couleur orchestrale aussi, oui, qui était propre, mais aussi parce qu'il avait une distribution particulière. Il aimait bien souvent rajouter des vents, rajouter des contrebasses. Il avait un orchestre souvent très fourni.
Alors ça, il faut quand même dire que c'est une époque. Il n'est pas du tout le seul à le faire. Et par exemple, doubler les vents dans les symphonies de Beethoven, c'était la tradition allemande. Ça n'est que plus tard qu'on est revenu à un Beethoven plus dégraissé. Et c'est vrai qu'il aimait les sonorités des basses. Et aujourd'hui encore, hein, quand vous écoutez le Philharmonique de Berlin, il est mort depuis 30 ans, Karajan. Donc je pense dans le pupitre actuel de contrebasse, il n'y en a pas un qui l'ait connu. Mais ça reste un pupitre de contrebasse énorme et en même temps très très chaud, comme ça, très rond, qui vous résonne dans le ventre. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est que, au-delà de cette puissance qu'on a beaucoup soulignée, il y a une clarté dans ce qu'il fait, une clarté absolue. C'est à la fois fondu, mais en même temps, vous entendez tout, et on sent que ça, c'était un souci majeur pour lui.
Celle dont il était capable, par exemple, dans Péléas et Mélisande.
Complètement.
De Debussy, qui était, je crois, un de ses opéras préférés, peut-être une de ses œuvres préférées.
Ah oui, et son enregistrement, moi, me plaît beaucoup pour ça. C'est que, à la fois, il est extrêmement dramatique, donc c'est vraiment du théâtre, il y a du drame. Il est mystérieux, parce qu'on a ces couleurs fondues que lui savait obtenir. Et malgré tout, cette clarté française, c'est une synthèse magnifique de son allemand et de son français, j'allais dire.
Alors tout à l'heure, quand j'ai présenté cette matinale et cette journée spéciale Karajan, j'ai dit que c'était un chef qui avait été adulé par certains, qui avait été honni, voire détesté par d'autres, en tout cas controversé. On ne peut pas faire l'économie, quand on parle de Karajan, de la période dite sombre, évidemment, c'est les années nazies. Il avait sa carte au parti nazi. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette période-là? Quel était son degré d'implication?
C'est très, très difficile à dire. Oui, oui, on le sait. On sait d'abord que sa demande d'adhésion au parti nazi s'est faite alors qu'il était encore autrichien. Et donc, le parti nazi...
Non, en 1933.
Absolument. Hein. Et en 1933, le parti nazi est interdit en Autriche. Hein. Le parti nazi est au pouvoir en Allemagne. En revanche, lui faisait sa carrière en Allemagne. Il a renouvelé cette demande. Écoutez, ce sont des sujets très, très compliqués chaque fois qu'on évoque les arts dans un régime totalitaire. Il est évident que Karajan a profité du régime pour asseoir sa carrière dans l'Allemagne nazie. Il a été d'ailleurs pas mal instrumentalisé par Goebbels, qui n'aimait pas Furtwängler, et qui trouvait que Furtwängler n'était pas assez souple, pas assez docile, et a essayé de monter en épingle Karajan. Après, pour ce qui est de la question, quelle est la part d'opportunisme qui était réelle et certaine, et la part de
conviction... Il l'avait dit lui-même, d'ailleurs.
Hein. Exactement. C'était la défense.
C'était sa ligne de défense.
Et la part de conviction, mon ami Oliver Radkolb, qui est professeur à l'université de Vienne, historien, qui a beaucoup étudié cette période, a trouvé certains documents qui montrent que à l'époque, il y avait de sa part de réels propos antisémites, dans des lettres, notamment. Hein.
C'est ce que relaie un article du Point, d'ailleurs,
qui
est sorti hier ou avant-hier.
Et qui repose sur les travaux d'Oliver Radkolb. Uh-huh. En revanche, pour ce qui est de son implication réelle, elle est plutôt moins forte que celle d'autres artistes comme Clemens Krauss, qui, par exemple, a écrasé des gens pour obtenir des postes, ou Carl Böhm, qui a occupé une maison arianisée, comme on disait, c'est-à-dire une maison... spolié à des juifs. Donc vous voyez, c'est une question excessivement complexe, opportuniste à coup sûr, pas très clair sans doute, mais plutôt moins compromis que d'autres de ses contemporains.
Merci infiniment Christian Merlin d'être venu nous parler de Karajan. Il faudrait évidemment 4 heures d'émission, voire plus, pour passer en revue toute la vie de Karajan.
Vous me donnez une idée.
On n'a pas le temps ici, mais peut-être dans Au cœur de l'orchestre, à la rentrée, pourquoi pas, deux numéros Karajan. Christian Merlin, on va rappeler qu'on peut réécouter les rediffusions de votre émission tout au long de l'été, même horaire, même jour, le dimanche à 9h. On va rappeler aussi que vous nous livrerez un nouveau livre. Alors là, encore un monstre sacré des chefs d'orchestre et des compositeurs. Ce sera à la rentrée, à l'automne. Ce sera Pierre Boulez, le Pierre Boulez chez Fayard. Et puis, pour ceux qui veulent vous écouter, parler, en dehors de la radio, au Théâtre des Mathurins, dans le 8e arrondissement à Paris, à partir du 24 septembre, la reprise de votre cycle de conférences, Les Musicales, de Christian Merlin. Merci Christian.
Un grand merci Clément.
On vous souhaite un bel été.
Vous aussi.
Et puis on va se quitter avec un souvenir de Salzbourg, qui était encore un lieu très important pour Karajan. La musique du Feu magique, extrait de La Valkyrie de Richard Wagner, encore et toujours l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan.